Carnet de campagne, bonjour. Dernier volet des carnets en Haute-Saône, un département qui abrite un lieu trop discret, lui aussi néanmoins nécessaire, la maison de la négritude et des droits de l'homme, ouvert à Champagney en 1971 sous le patronage de Léopold Sédar Senghor. Cette maison située à 40 km de Vesoul mérite une large audience. Pour la belle histoire, les habitants de Champagney inclurent dans le cahier de doléances de 1789 la condamnation pure et simple de l'esclavage. Actuellement, jusqu'au 22 décembre, la maison accueille une exposition « La ségrégation et la gloire, les soldats américains au cœur de la grande guerre sur le sort réservé aux soldats de couleur dans les régiments ». Initiative qui s'inscrit évidemment dans la commémoration du centenaire de 14-18. Il y a un lien avec cette maison à nos pages d'émission. Derniers invités de la semaine, Véronique Landiot, vice-présidente de l'association « Quelle énergie pour le jeu créatrice » réservé aux femmes en phase de création d'entreprise. Une initiative qui est présentée aussi dans les pages numériques de La Vie sous la plume de Laurent Gibowski, puis Bernard Godinet, président de l'association Bord Placal, où comment, une fois encore, des habitants décident collectivement du développement durable de leur pays.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Véronique Landiot, bonjour.
Bonjour.
Véronique, vous êtes vice-présidente de l'association Quelle énergie, au pluriel, créée en 2009 à Vesoul. Quelle, CK apostrophe L, pour elle au féminin, les femmes qui ont des projets de création d'entreprise, et l'association accompagne ces personnes.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est au départ un réseau de femmes qui existe donc en Haute-Saône. Puis nous avons aussi développé en Bourgogne et puis également à Besançon, donc dans le Doubs. La région Franche-Comté est assez bien représentée. Alors c'est une association qui permet à des femmes de se rencontrer, mais qui permet aussi effectivement à des créatrices de venir nous voir pour leur donner la possibilité de les accompagner par notre expérience personnelle. Voilà, nous sommes des membres de tout profil. Et on se réunit deux fois par mois à peu près, au cours d'ateliers, on fait des conférences. Et puis donc, on organise également ce que nous avons appelé les quels cafés. Et dans ces quels cafés, des femmes qui ont un projet viennent nous voir et nous leur donnons également quelques conseils.
Et alors, l'année dernière, vous avez embauché la jeune Marlène en service civique qui a participé avec vous à la création d'un jeu qui s'appelle Créatrice avec voilà, un K aussi,
oui.
Le jeu de la création d'entreprise pour les femmes et par les femmes, et c'est un vrai jeu de société.
Alors c'est tout à fait un jeu de société, on va dire que c'est entre le Monopoly et le jeu de loi, si vous voulez, c'est un jeu de plateau qui se joue avec des dés, un pion et puis des cartes. Donc ces cartes ont été conçues à la fois dans leur présentation mais surtout dans leur contenu avec tous les acteurs de l'accompagnement à la création d'entreprises qui sont sur notre département, nous ont donné leur expertise, leur avis sur la cohérence des fiches, sur leur contenu. Et puis nous avons donc de ce fait pu construire une soixantaine de cartes et ces cartes sont réparties en trois niveaux. Et ces trois niveaux, en fait, ce sont les étapes que les créatrices, que les porteuses vont pouvoir effectuer sur le jeu. Chacune à son niveau. Par exemple, la personne qui commence seulement à penser à son projet sera dans l'étape « j'y pense », donc le niveau 1. Si elle est déjà un petit peu plus avancée, elle sera dans l'étape niveau 2 « j'y vais ». Et puis, quand elle est carrément dans les starting blocks, prête à démarrer, elle sera dans l'étape « j'y suis ». Voilà, et donc, au fur et à mesure des tours de jeu, les personnes vont pouvoir surtout échanger, c'est ça qui est très important, sur l'idée, les motivations, mais aussi des choses beaucoup plus concrètes, comme le business plan, l'étude de marché, l'installation de l'entreprise, son développement, ses emprunts bancaires, enfin vraiment toutes les étapes qui jalonnent le parcours de la créatrice.
Et en quelques mois d'utilisation, est-ce que vous pouvez dire que ce principe, très ludique mais sérieux en même temps, est un accélérateur de projet?
Alors c'est certainement un accélérateur de projet puisque d'une part à l'issue de chaque jeu nous donnons aux personnes qui ont participé à un petit document que nous avons également réalisé, un petit document de 8 pages dans lequel elles vont pouvoir à la fois retrouver, je dirais, les questions de base, les réponses de base pour une espèce de checklist, mais elles vont surtout retrouver également tous les coordonnées de tous les dispositifs en place sur la haute zone. Ouais. Donc ça, c'est vraiment une mine d'informations. Et puis, bien évidemment, ces personnes peuvent à tout moment venir nous retrouver. D'ailleurs, quand les personnes soit participent au Quel Café ou au jeu créatrice, bien souvent, elles adhèrent à notre association. Et là, nous les aidons quasiment au quotidien. Ouais. Voilà. Et... Alors, ce qui est important, c'est que ce jeu a rencontré vraiment un engouement. Nous en avons sorti 25. Chaque structure qui nous a accompagnés en a été dotée. Et puis, d'autres structures également qui l'ont demandé, la préfecture, la commune, etc. Et nous allons sortir bientôt une centaine supplémentaires. Voilà.
Belle idée. Production 100% régionale, fabrication du plateau de la mallette à Épinal, des pions et des dés au Fab Lab de Qui Bourgogne à Dijon. Et la mise en page du jeu, fabrication des cartes à Vesoul. Donc, il n'y a pas de doute, c'est vraiment très local.
Oui, oui. Et puis, vous parliez de Marlène qui nous a énormément accompagnés sur ce jeu. Sans elle, on n'aurait certainement pas été aussi loin. Et puis là, comme son contrat s'est terminé au bout de 7 mois, eh bien, nous avons prévu de réembaucher une jeune femme. Et Juliette vient d'arriver avec nous là ce mois-ci pour continuer l'aventure de l'association. Donc ça, c'est vraiment très important aussi pour nous, parce que ces jeunes femmes, généralement, à l'issue de leur contrat, trouvent un job dans l'accompagnement. C'est ce qui s'est passé pour Marlène. Donc ça aussi, pour nous, c'est vraiment une belle expérience.
Quelle énergie à une page Facebook. Le lien va s'afficher à nos pages d'émission. Le siège est à Vesoul. Bravo Véronique et merci.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Décidément, les lieux réhabilités offerts à une nouvelle vocation ne manquent pas en Haute-Saône. Exemple, Catherine Café Music à Héricourt, géré par le collectif Alternatif. Comme son nom l'indique, la diffusion musicale, aussi de la création, une salle de 350 places qui tourne à plein régime. Et le catering est installé dans une ancienne usine de Salaison dont une aile est investie par une école d'art plastique, une galerie d'art. Je vous conseille d'aller sur le blog pour voir la riche programmation. L'autre lieu quant à lui plus institutionnel, sans s'égarer toutefois dans les facilités, c'est le théâtre Edwige Feuillère de Vesoul, scène conventionnée dirigée par Charlotte Nessy, laquelle dirige également un théâtre lyrique très très original, Justine Niagna, qui forme des enfants à la pratique vocale en les associant aux arts de la scène. Ça va donner par exemple ce soir une comédie musicale In the Woods de Stephen Sondheim à 20h30. Suivront Le Prométhée enchaîné d'Eschyle, mise en scène par Olivier Pie, les 28 et 29 novembre, et Prévert en mots et en musique, Yolande Moreau, Christian Olivier, le 1er décembre. Bernard Godinet, bonjour.
Bonjour.
Bernard, président de l'association Bord Placal. Le Bord Placal, c'est le bord du plateau calcaire chez vous.
Voilà, bord du plateau calcaire. C'est pour ça qu'on a appelé ça comme ça. Ouais. C'est un peu dur comme mot, mais ça exprime bien le lieu où on est, à la fois en bordure du Jurassique et dans la région sous-vosgienne.
Ouais. Et lorsque vous lancez l'association en 92 avec Michel Delon, vous pensez donc au développement rural. Vous aviez des compétences en cette matière ?
Non, aucune. Simplement que c'est un petit peu le travail de réflexion qui s'était fait peut-être un peu à notre niveau, au niveau agricole, où on s'est dit que la meilleure façon de mettre en valeur un territoire, c'est d'aller chercher les personnes dans leur village qui ont une passion pour quelque chose de leur commune, en termes de patrimoine, en termes d'histoire, en termes de naturel, etc. Et c'est intéressant de démarrer avec des gens qui pouvaient le mieux en parler et donner une certaine attractivité à leur territoire.
Oui. Alors, quand vous avez réuni ces passionnés, il ressortait quel objectif au départ de la création de l'association ?
Alors, on sentait tout de suite les objectifs qui allaient dans le sens du tourisme. Parce que quelque part, on se disait, notre territoire, il est beau. Nous, de l'intérieur, on ne sait pas l'apprécier. Mais quand les gens viennent de l'extérieur, ils nous le disent. Et c'est qu'on pourrait mettre en valeur ce territoire pour que les gens puissent y venir, y séjourner, voire y habiter.
Ouais. Alors, comment vous l'avez mis en valeur, ce territoire ?
Eh bien, on a dit que la première des choses, c'était de faire comprendre aux gens d'ici, de chaque village, que leur village, il a une histoire, que leur village, il a du beau patrimoine, il a une belle nature, il a tout plein de choses comme ça qui sont intéressantes, parce que c'est les gens du territoire qui sont le mieux à même de le faire découvrir aux autres. Donc, c'est pour ça qu'on avait essayé de relever dans chaque village tout le petit patrimoine, parce que c'est surtout du petit patrimoine, on n'a pas de choses très exceptionnelles, en fin de compte. Mais c'est à travers ce petit patrimoine qu'on a essayé de mobiliser les gens pour leur dire, votre territoire, il est beau, il fait bon y vivre.
Oui. Alors, vous avez mis en place beaucoup de choses, des mesures agri-environnementales, telles la gestion de pelouses sèches. La sauvegarde d'ouvrages anciens, la publication de documents promotionnels, l'agriculture durable. Finalement, vous avez rempli les cases qui étaient un tout petit peu vides ou restaient passives, mais comme des professionnels.
Oui, comme des professionnels, mais à la limite avec notre sensibilité, quoi. Et je trouve que c'est peut-être ça qui permet aux gens de mieux percevoir ce qu'on voulait faire. Parce que vous prenez l'exemple de l'agriculture, mais c'est vrai que on avait démarré les zones Natura 2000, c'était les années 98.
Oui.
Il n'est pas surprenant qu'aujourd'hui on soit dans de l'agroécologie et qu'on essaye de réfléchir en se disant il faut conserver les systèmes herbagers, il faut conserver nos pelouses sèches, conserver notre système d'élevage à partir de foin et de regain, parce que c'est quelque part notre patrimoine. Donc on se dit c'est des choses qui sont importantes, conserver l'économie dans notre territoire, qui correspond à ce que la nature nous permet.
Ouais. Mais dans le domaine agricole, Bernard, c'est pas à vous que je vais apprendre ça. Quand on fait ce type de constat et qu'on choisit du durable, on est obligé de faire des concessions, de modifier ses modes de production, de s'éloigner de l'agriculture conventionnelle.
Oui, c'est pour ça que disons qu'on l'a mis en place aussi. Donc c'est quasiment une volonté. Aujourd'hui, on est à plus de 20% des agriculteurs. Pas des surfaces, hein, des agriculteurs qui sont en bio. Parce que, simplement, il y a une petite sensibilité qui s'est mise en place petit à petit, et puis que les gens ont compris, à la limite, que c'est un choix par rapport à l'avenir. Ça vient au fur et à mesure du travail que l'on fait, quoi, des années.
Ouais.
Et c'est ça qui est intéressant.
Ouais. Alors, vous avez organisé aussi un festival, le Festival des Automnales, avec des films, des conférences, débats, des ateliers, des spectacles. Et là, vous avez en projet la reconstruction d'une laiterie.
Oui. Alors, le Festival des Automnales, c'est quelque chose qu'on a fait durant 5 ans. Là, ça pose la question de le faire tous les 2 ans, parce que c'est très lourd.
Oui.
Mais ça nous permet de donner une autre ouverture par rapport à ce qui était possible. Et on avait le dernier thème de notre festival, c'était « Construisons notre territoire ensemble ». C'était un petit peu pour déboucher sur un conseil de développement où on puisse mettre autour de la table tous les acteurs d'un territoire pour voir un petit peu ce qui était possible de faire ou quelles priorités donner, etc.
Ouais.
On est obligé un petit peu de faire aussi des choix en fonction des opportunités du moment. Et là, on a quelqu'un d'un village d'à côté qui nous a donné la laiterie de son père, qui avait travaillé dedans de 1900 à 1960 à peu près. Et puis on s'est dit, bah tiens, ce serait super, comme on a un petit musée agricole, de pouvoir remettre en route cette laiterie pour retrouver un petit peu cette histoire de toute la production laitière et de la transformation laitière dans notre secteur, quoi.
Bah, bravo. Hein. Et il y a des élus qui ont de la chance d'avoir des concitoyens comme vous. Hein. Borplacal.fr pour l'adresse. Il y a aussi la page Facebook pour découvrir cette chouette association qui existe depuis 1992. Merci Bernard.
Merci.
Merci à Nioro qui réalisait les carnets, à Joël Levert, merci aux techniciens, ici Anne de France Inter aujourd'hui, Fabrice Desmas, Nicolas Stouffle assisté de Yann Paillet à l'Ure, le jeu des 1000 euros.